Bien, bonjour à tous. J'ai donné pour titre, avant ce texte, donc les conséquences de Noël. Alors que c'est un texte qui parle de ce qui nous attend dans l'avenir. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait pas eu Noël, il n'y aurait pas de résurrection, il n'y aurait pas de pardon des péchés, évidemment. Il n'y aurait pas d'espérance, il n'y aurait rien. Et j'ai pensé que vous alliez être enseigné sur la période spécifique de Noël, puisqu'il y a une fête de Noël le 18 décembre chez vous. Et c'est pour ça que j'ai voulu aborder une des conséquences de Noël, qui est donc notre résurrection d'entre les morts et notre enlèvement pour retrouver le Seigneur. Alors l'église de Thessalonique était une église qui connaissait la persécution, mais en même temps, quand on lit les deux épîtres aux Thessaloniciens, on voit que c'est une église qui se porte bien sur le plan spirituel. Néanmoins, à cause des persécutions, probablement, les chrétiens vivants se posaient la question, mais nos frères et sœurs qui sont morts, quand le Seigneur va revenir, vont-ils être privés de ce retour du Christ, de cet avènement de notre Seigneur Jésus-Christ? Et c'est à cette question en particulier que Paul va répondre à l'aide de ces quelques versets, des versets 13 à 18. Paul, pourtant, a déjà mentionné l'avenir des chrétiens dans cet épître, au chapitre 1, versets 9 à 10, en Thessaloniciens, nous trouvons « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Une première instruction avait été donnée. Au chapitre 2, verset 12, nous trouvons aussi « Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Donc là encore, une notion de royaume de Dieu, de gloire de Dieu, donc un avenir glorieux pour les croyants. Au verset 19 du chapitre 2 de la première épître, aux Thessaloniciens, Paul va dire « Qui est en effet notre espérance ou notre joie, ou notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement ?» Donc je vous disais qu'il y avait beaucoup de compliments, en quelque sorte, qui étaient adressés par Paul aux Thessaloniciens, puisqu'il leur dit « Vous serez notre couronne de gloire ». Et il rappelle donc la présence du Seigneur lors de son avènement. « Oui, vous êtes notre gloire et notre joie », dit l'apôtre. Et puis, pour terminer ces citations, chapitre 3, verset 13, Paul dit « Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. » Donc il savait bien que le Seigneur allait revenir, simplement il se posait la question, mais ceux qui sont morts vont-ils jouir de ce merveilleux moment quand le Seigneur sera de retour? Et donc Paul va faire preuve de ministère pastoral, puisqu'il dit au verset 13 du chapitre 4, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Donc, le Saint-Esprit trouve important que nous, les chrétiens, nous soyons au courant de ce que Dieu va faire avec chacun d'entre nous, en quelque sorte du plan que Dieu a prévu pour nous, puisqu'il ne veut pas que nous ignorions quelque chose à ce sujet. Et donc, de là, la notion de l'enseignement, chose primordiale pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions avoir une foi stable et profonde, et en même temps que nous puissions répondre à ceux qui nous posent des questions, que ce soit des frères et sœurs en Christ qui ont besoin de renseignements, ou des perdus. Donc, vous voyez la notion d'enseignement, comment elle est importante. Et il parle de ceux qui dorment. Donc, ceux qui dorment, c'est donc ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc nous savons que dans le monde, si vous assistez à des obsèques de personnes qui ne sont pas au Seigneur, s'ils sont des amis, une famille non chrétienne, eh bien il y a beaucoup de désespoir, parce que les gens ne savent pas où ils vont, où vont partir le défunt, puis eux-mêmes se posent la question, et quand je vais mourir, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, ceux qui dorment se réfèrent donc aux chrétiens qui sont morts. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, on emploie souvent l'image du sommeil pour désigner la mort. Entre nous, d'ailleurs, cimetière, littéralement, ça veut dire ceux qui dorment. Lieu où ceux qui dorment. En Marc chapitre 5, verset 39, lorsque Jésus va ressusciter la fille de Jaïrus, le texte inspiré nous dit « Jésus entra et il leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit ? Et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et lorsque Jésus va ressusciter Lazare, en Jean chapitre 11, verset 11, le texte inspiré nous dit, après ces paroles, Jésus leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. » Parler de dormir pour des gens qui sont morts, ça donne aussi une notion de paix. Vous savez, quand un bébé dort, on est là autour du berceau, on regarde, et on voit que c'est paisible. Quand des adultes s'endorment de fatigue dans un fauteuil lors d'une rencontre familiale, c'est paisible. Et donc là, l'image chrétienne de la mort, c'est la paix, c'est l'aspect paisible des choses. Bien entendu, il ne s'agit pas ici du sommeil de l'âme. Il est question du sommeil du corps. Pourquoi? Parce que Paul écrivit ailleurs qu'un chrétien qui avait quitté son corps était avec le Seigneur. Donc là, le texte parle véritablement de l'aspect corporel de nos personnes, le sommeil du corps. Pourquoi l'âme? Eh bien, l'âme et l'esprit nous est dit en 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 8, « Nous sommes pleins de confiance » et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Vous voyez, on voit bien l'enseignement biblique, quitter ce corps et être auprès du Seigneur en passant par la mort physique. En Philippiens chapitre 1, verset 23, Paul dit aux Philippiens, « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Donc, vous voyez, l'autre enseignement concernant ce qui se produit au moment de la mort physique, notre âme et notre esprit partent en présence du Seigneur, notre corps, lui, va sommeiller dans la tombe. Et puis, voire même se dissoudre, hein, disparaître avec le temps. Donc, comme je vous l'ai dit, il parlait plutôt du sommeil du corps dans la terre jusqu'à ce qu'il soit ressuscité, transformé en un corps glorieux, réuni avec son âme, donc, tel que l'enseignement d'un Corinthien, chapitre 15, nous en parle, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. De là, d'ailleurs, l'importance du corps dans les Saintes Écritures, du corps physique. Vous savez que le christianisme biblique est une des rares religions qui considère le corps, l'aspect physique de nos personnes, comme étant un élément très important. Peut-être qu'on ne prêche pas beaucoup sur le corps dans les églises évangéliques en général, mais dans les Saintes Écritures, il y a ce qu'on appelle la théologie sur le corps, et on voit combien Dieu a un regard soutenu, et quelle est l'importance de l'enseignement qui nous est donné dans la Bible pour traiter notre corps d'une manière correcte, respectable. Pourquoi? Parce que c'est une création de Dieu. Malgré la chute, c'est une création de Dieu. Et c'est pour ça que notre corps va être rédempté, hein, va ressusciter, et qu'il est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Pourquoi est-ce que l'apôtre dit cela? Parce qu'au verset 14, il dit « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux et avec lui ceux qui sont morts. » Notre résurrection est aussi certaine que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui a eu lieu en son temps. Ensuite, notre relation personnelle avec Dieu, Notre vie dans la plénitude du Saint-Esprit nous amène à avoir conscience de cette vie de résurrection qui s'exprime dans nos corps mortels sur cette terre et qui un jour véritablement, même si nous sommes morts avant que le Seigneur revienne, va agir avec puissance pour nous réunir ensuite avec notre Sauveur bien-aimé. Donc oui, nous sommes, nous les chrétiens nés de nouveau, ceux qui possèdent la certitude de la vie éternelle, de la résurrection de nos corps, de la rédemption de nos âmes et de nos esprits. Et puis, nous pouvons affirmer avec toute simplicité, je sais qu'un jour je vais ressusciter d'entre les morts. Et c'est un puissant témoignage, vous savez, pour les gens d'aujourd'hui qui connaissent pas grand-chose ou qui se posent des questions, de trouver en face d'eux des chrétiens qui leur disent simplement, oui, moi aussi je vais ressusciter comme le Christ est ressuscité. Alors ne vous gênez pas pour partager cette belle nouvelle autour de vous. De même que Jésus est mort et ressuscité, de même ceux qui meurent en croyant en lui se relèveront de la mort pour être emmenés au ciel avec le Seigneur. C'est pour ça que Jésus a pu dire à ses disciples en Jean chapitre 14 verset 1 à 3 « Que votre cœur ne se trouble point ». Vous savez, cette fameuse soirée où le Seigneur leur dit « je vais m'en aller, quelqu'un va me trahir ». Enfin, après leur avoir lavé les pieds et puis la tête, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, une soirée particulière, Jésus leur dit « mais que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place ». Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez bien l'aspect de la résurrection qui est enseigné d'une manière très simple et en même temps l'aspect du retour du Christ, de son avènement. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et puis en 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 à 53, Paul dit « Voici, je vous dis un mystère ». Un mystère dans le sens que c'est quelque chose d'annoncé mais qui n'a pas encore eu lieu, qui va se manifester. Hein. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés, donc nous qui serons vivants à ce moment-là, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ces passages donc décrivent l'enlèvement de l'Église qui aura lieu lorsque Jésus reviendra pour rassembler et emmener au milieu, au ciel, tous ses rachetés, qu'il soit mort depuis longtemps ou encore en vie. Alors, certains se posent la question, mais enfin, ils sont morts, il y en a qui sont morts depuis des siècles. Et comment ça va se passer? Alors, Paul va dire au verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Il y a donc une chronologie qui nous est donnée là. Nous sommes vivants, le Seigneur revient, c'est d'abord les morts en Christ qui vont ressusciter. Hein, ceux qui sont morts depuis des siècles et des siècles vont ressusciter. Et puis nous, ils vont d'abord ressusciter, puis nous ensuite on sera enlevés avec eux. Vous voyez, il y a cette chronologie qui est indiquée. Donc, non seulement les âmes de ceux qui sont décédés en Christ reviendront avec lui, mais leurs corps seront aussi ressuscités lors de son avènement. En effet, les corps des chrétiens qui seront décédés seront ressuscités immédiatement avant que les chrétiens encore vivants ne soient conviés à leur rejoindre dans les nuées. Donc c'est ça la chronologie. Quand nous lisons ces textes, on se rend compte que Paul croyait que ses lecteurs de Thessalonique et lui-même pourraient bien être encore vivants lorsque le Seigneur reviendrait. Pour Paul, le retour du Seigneur dans plusieurs de ses épîtres apparaît comme quelque chose d'éminent. Pourquoi ? Parce qu'au chapitre 1 du verset 10 de la première aux Thessaloniciens, Paul parle pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. En 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 29, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Pour l'apôtre Paul, il pensait que le Seigneur allait revenir, enfin, dans un premier temps, il pensait que le Seigneur allait revenir rapidement. Et en Philippiens, chapitre 4, verset 5, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Et évidemment, comme il va dire dans l'Épître aux Romains, la venue du Seigneur est beaucoup plus proche qu'il y a bien des années en arrière. Et c'est la même chose pour nous. Ça fait des siècles que le Seigneur est parti rejoindre son Père dans les lieux célestes. Et c'est évident que pour notre génération, le retour du Seigneur est plus proche que même pour Paul, hein, qui pensait lui déjà avoir ça de son vivant. Mais on voit bien les événements qui se déroulent. Et je vous dis cela parce que avoir conscience du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose d'important pour notre vie quotidienne. Parce que ça va nous donner la raison même de notre façon de vivre. La raison même d'être encore sur terre, c'est d'être témoin de Christ, d'accomplir ce que nous devons accomplir, tant sur le plan des études, que sur le plan des professionnels, que sur le plan de la famille, que sur le plan de l'Église. Tout prend un sens par rapport au retour du Seigneur, par rapport à notre Sauveur lui-même. Donc n'oublions pas, malgré qu'on peut peut-être trouver le temps long, le Seigneur va revenir. Et les Saintes Écritures nous invitent à vivre en fonction de ce retour, en pensant à ce retour. Et ce retour, comme vous le savez, sera soudain. Comme Jésus a dit, quand le voleur vient, il ne va pas vous prévenir. Donc il va venir comme un voleur. Donc tenons-nous prêts, vous et moi. Et il va dire ensuite au verset 17, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, donc avec ceux qui seront morts avant nous, mais ressuscités, et bien avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. » Donc ça va être quelque chose. Alors ce terme « rencontre », il se trouve que trois fois dans le Nouveau Testament, enfin dans le grec. C'est intéressant parce qu'il y a une fois où c'est avec les vierges sages et les vierges folles, où elles vont à la rencontre de l'époux. Et le terme ne ressort pas le sens ne ressort pas tellement dans la traduction française. Mais aller à la rencontre, c'est venir auprès de quelqu'un que l'on accueille, parce que c'est la personne que l'on attend, pour ensuite l'amener, ou l'accompagner plutôt que de l'amener, l'accompagner là où elle veut se rendre. C'est un petit peu comme dans le monde politique, il y a un protocole, et quand il y a une visite d'État, alors le président de la République, si c'est en France que ça se produit, va se rendre à l'aéroport, accueillir son hôte, et l'accompagner jusqu'à l'Élysée. Et ça va être c'est le même sens du terme grec qui est traduit par j'ai oublié le mot. qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? La rencontre, ouais, ça, le terme rencontre, c'est la même chose que dans ce protocole. On va aller vers le Seigneur, puis il va nous conduire, on va l'accompagner. Ça va être quelque chose de formidable. Hein. Et alors il dit, mais la fin de ce verset, verset 18, on se rend compte que l'apôtre Paul appliquait à sa propre vie de tous les jours cette raison d'être du retour du Christ, puisqu'il dit, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher de manière digne, au chapitre 2, verset 12, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher de manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire, et là, il parle de nous consoler, de nous encourager par ses paroles. Alors, vous voyez, l'importance du retour de Jésus-Christ et de notre destinée éternelle, c'est que ça doit aussi faire partie de nos échanges, de nos conversations, de nos sujets de préoccupation et aussi de compassion les uns vis-à-vis des autres et de consolation. Le Seigneur va revenir. On traverse, vous et moi, toutes sortes de situations plus ou moins agréables et c'est cette consolation-là que nous devons rappeler dans nos cœurs. Nous possédons d'abondantes raisons de nous réjouir en tant que chrétiens. Pourquoi ? Parce que nous savons que nous allons ressusciter, retrouver ceux qui sont morts en Christ, les membres de nos familles, nos amis, etc. Et puis, comme a dit Jésus, nous serons aux noces de l'agneau avec Abraham, Isaac, Jacob, et tous ceux qui nous ont précédés, toutes les figures de l'Ancien Testament, et puis le Seigneur lui-même en personne. Alors, réjouissons-nous, exhortons-nous, et marchons dans cette vie pour le Seigneur de tout notre cœur, comme le dit l'épître de Tite au chapitre 2, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Donc voilà notre destinée, une des grandes conséquences de Noël, c'est que vous et moi, si vous êtes nés de nouveau, eh bien nous ressusciterons en Christ, où nous serons enlevés si le Seigneur revient de notre vivant. Que Dieu nous bénisse par rapport à cet enseignement de sa parole. Amen.